Mercredi 18 septembre. Bonjour à tous. Bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le pari perdu de Benjamin Netanyahou. Son parti, le Likoud, est en deuxième position selon les résultats encore partiels des élections législatives. On voit ça, Agnès, en détail après les autres titres.
En France, l'air est pollué dans 93% des écoles. Des expérimentations sont menées pour améliorer la situation. L'inquiétude des salariés de Michelin à La Roche-sur-Yon, de nouveaux records de chaleur et une sécheresse qui s'éternise, et puis l'audace joyeuse de la série Palace à découvrir sur scène à Paris.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Un Guillaume Canet méconnaissable sous les traits d'un agriculteur endetté, épuisé, qui finit par mettre fin à ses jours. C'est l'histoire du film déchirant Au nom du Père. Guillaume Canet et le réalisateur Édouard Bergeon seront avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. À 8h20, nous serons ensemble pour le grand entretien, Léa, de la matinale avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
En provoquant des élections législatives anticipées, le Premier ministre israélien espérait renforcer son pouvoir. Et c'est un échec ce matin. Selon des résultats encore partiels, c'est le parti bleu-blanc de Benny Gantz qui arrive en tête avec 32 à 34 sièges. Le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, est lui crédité de 30 à 33 sièges. Et dans ce duel très serré, Avigdor Lieberman, qui obtiendrait 8 ou 9 sièges, fait figure de faiseur de roi. La situation est donc ce matin très incertaine, mais les partisans du parti bleu-blanc ne cachent pas leur joie cette nuit. Reportage au QG de campagne de Benny Gantz, de l'envoyé spécial de France Inter en Israël, Omar Waman.
Benny Gantz.
C'est dans une ambiance de fête que Benny Gantz a fait son apparition devant ses partisans en plein milieu de la nuit. Elon, une trentaine d'années, veut croire à la fin de l'ère Netanyahou.
D'après les résultats, je crois que c'est fini pour lui. Netanyahou va pouvoir s'occuper de ses problèmes de corruption. Il a passé 13 ans au pouvoir, il doit se retirer, c'est tout. Le peuple s'est exprimé.
Mais d'autres dans la salle appellent à plus de prudence, comme Ofer, un étudiant de Tel Aviv qui rêve de grand soir.
Le rêve peut devenir réalité, mais on peut aussi bien se réveiller demain et avoir un nouveau gouvernement Netanyahou. On a voté 2 fois et s'il le faut, on votera 10 fois, car on aime notre pays Israël et on veut le confier à des mains propres.
Au premier rang, un groupe de jeunes filles s'époumonne. Yovala, 21 ans, à peine sortie de son service militaire, et la voix cassée.
J'ai crié toute la journée, j'ai parlé à tous les habitants d'Israël pour les appeler à voter Benny Gantz. Changeons, on peut faire mieux.
Mais avant un éventuel changement, les partis politiques vont devoir négocier. Il reviendra alors au président israélien Reuven Rivlin de choisir le premier ministre le plus à même de former une coalition gouvernementale. Tel Aviv, Omar Waman, France Inter.
Visiblement fatigué, la voix enrouée, Benjamin Netanyahou n'a revendiqué ni la victoire ni la défaite, mais a plaidé pour la formation d'un gouvernement sioniste fort. Nous serons en direct de Jérusalem dans le journal de 8h. Une impasse politique que connaît aussi l'Espagne avec un 4e scrutin en 4 ans. Face à l'impossibilité pour le Parti Socialiste de former un gouvernement, de nouvelles élections législatives auront lieu le 10 novembre prochain.
Il est 7h04, Agnès, en France. Ce mardi est la journée de la qualité de l'air.
Et l'on sait aujourd'hui que la pollution intérieure est au moins aussi importante que la pollution extérieure. D'après l'Observatoire de la qualité de l'air, 93% des écoles françaises donc sont exposées à des taux de particules fines au-dessus des normes proposées par l'Organisation mondiale de la santé. D'où cette expérimentation menée en Seine-Saint-Denis dans la commune du Raincy pour purifier l'air des classes. Reportage de Sandy Dauphin.
Pendant les vacances, pendant que vous n'étiez pas là, on est venu poser des petits capteurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
À l'école élémentaire La Fontaine, depuis la rentrée, on mesure la qualité de l'air dans les classes. Frédéric Bouvier, directeur en charge du projet chez Veolia.
Tout en haut là-bas, au fond de la classe, il y a 2 petits boîtiers blancs qui vont nous permettre de mesurer la pollution que vous pouvez respirer.
Cette pollution vient de l'extérieur, mais également de l'intérieur, des meubles, des peintures, des produits ménagers. Les capteurs mesurent aussi le taux de confinement de la classe. Explication du maire du Reims. Ainsi, Jean-Michel Genestier.
Vous avez des polluants qui sont liés à l'ameublement. Les meubles, pendant de nombreuses années, dégagent différents éléments qui sont polluants. Vous avez aussi des éléments qui sont liés à la construction. Et vous le savez probablement, la concentration de CO2, on dégage tous du CO2. Quand vous avez une classe fermée, eh bien, la réflexion, la pensée est moins claire pour les enfants. Il faut pouvoir participer à faire que l'air soit renouvelé assez régulièrement.
Dans un deuxième temps, Veolia équipera les classes d'un système de purification de l'air.
On va installer pendant les vacances de la Toussaint des caissons qui vont permettre de filtrer, de purifier l'air. Donc on prendra l'air extérieur, on va le traiter, le nettoyer et ensuite on va le souffler dans les classes pour que les enfants respirent un air de qualité.
La qualité de l'air dans les écoles, une préoccupation grandissante, mais aussi un nouveau marché pour les grands groupes comme Veolia.
L'écologie, une des quatre priorités abordées par le chef de l'État lundi soir lors de la rencontre avec les parlementaires de la majorité, mais c'est bien le sujet de l'immigration qui a marqué les esprits. Dès hier, une quinzaine de députés de la majorité ont publié une tribune pour réclamer une intégration réussie dans les territoires et ils exigent à présent un rendez-vous le plus rapidement possible avec Emmanuel Macron. Karine Bécard les a rencontrés.
Une petite partie de la majorité est en train de se fissurer. Ira-t-elle jusqu'à quitter le groupe des marcheurs à l'Assemblée ? Pour l'instant, deux tribunes ont déjà été publiées et le député Jean-François Cesarini voudrait surtout pouvoir discuter avec le président.
J'espère qu'un jour on aura peut-être des échanges un peu différents. C'est vrai qu'il fait des grands débats avec les Gilets jaunes, il fait des grands débats avec les citoyens. Peut-être qu'un jour on aura un grand débat avec les parlementaires, allez savoir.
En somme, trop c'est trop. Les propos sur l'immigration auraient-ils fait l'effet cette fois d'une ligne rouge qui a été franchie ? L'élu du Bas-Rhin, Martine Vonneur.
C'est une ligne, je ne sais pas de quelle couleur elle est à l'heure où on se parle, mais en tout cas c'est un signe fort. Ça pose le débat.
Ils sont assez remontés, mais ils sont très minoritaires. Thomas Mesnier, comme la plupart des députés de la majorité, jure qu'il est à l'aise avec ce discours de vérité du président.
C'est un sujet important sur lequel on doit travailler sans avoir de totem ni de tabou, qu'on doit prendre de face, avec le en même temps qui nous caractérise depuis nos 2 ans de mandat. Mais je l'ai trouvé dans le ton juste.
À La République En Marche, ils sont une quinzaine sur 300 à contester le virage pris par Emmanuel Macron. C'est peu, mais c'est suffisant pour faire perdre au président sa majorité absolue à l'Assemblée.
Emmanuel Macron qui a annoncé hier soir la levée de 5 milliards d'euros pour soutenir les start-up françaises. Ce sont les banques et les assureurs qui vont financer durant 3 ans les jeunes pousses de la tech. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Eux s'inquiètent pour leur emploi, les salariés de 4 des 16 usines Michelin. 4 usines en difficulté, dont celle de La Roche-sur-Yon, spécialisée dans les pneus de poids lourds haut de gamme que Michelin n'arrive plus à vendre. Marc Bertrand était hier à la sortie de l'usine. Reportage.
Les ouvriers sortent par le tourniquet, salopette Michelin sur le dos, la fermeture.
Tout le monde en parle, depuis des mois déjà.
Sur les visages, ce qu'on lit.
C'est de l'inquiétude, on ne connaît pas l'avenir de l'usine en fait.
On ne nous dit rien, dit Yannick, mais les salariés le voient bien.
On produit moins en fait, parce qu'on nous demande moins. Mais le boulot, on l'a toujours fait, depuis 2 ans, on fait même plus qu'on doit faire. Et on ne sait pas où on va.
L'usine voit ses commandes diminuer depuis des mois. Elle va sortir 680 000 pneus cette année, presque 100 000 de moins que l'an dernier.
Bah, Michelin perd de plus en plus de parts de marché sur le secteur de poids lourds. Suite à des augmentations de prix, du coup, mécaniquement, il perd des parts de marché, donc il y a moins de volume, et tous les mois, ça baisse. Donc, une usine qui n'a plus de volume, forcément, elle se met en danger.
Le directeur de l'usine, Olivier Furnon, parle plutôt de la concurrence des pneus low-cost venus d'Asie, mais il le reconnaît.
On est sur la sellette, comme on dit. Les gens aimeraient qu'on puisse leur garantir leur emploi de façon sûre, et c'est ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, parce qu'il y a des incertitudes qui pèsent sur la charge de l'usine, et donc forcément sur le niveau d'emploi.
La direction a déjà imposé des jours de congé, elle a prêté 35 salariés à d'autres usines du groupe pour ralentir la production. Pour l'instant, elle ne parle pas de fermer l'usine.
Reportage signé Marc Bertrand. Une détente sur le marché de l'or noir. L'Arabie Saoudite a annoncé hier soir que la production sera totalement rétablie à la fin du mois. Réaction immédiate des marchés avec une baisse de 5% du prix du baril. Ces incertitudes récurrentes sur les marchés poussent les Européens à gonfler leur bas de laine. 600 milliards d'euros dormiraient ainsi en petites coupures sous les matelas de la zone euro. Un chiffre de la Banque Centrale Européenne révélé par les Échos ce matin.
De l'eau qui vaudra bien de l'or.
86 départements touchés par la sécheresse et contraints de mettre en place des restrictions d'eau. C'est le cas dans les Yvelines. Pas de pluie, des températures encore hautes et le niveau des cours d'eau qui baisse inexorablement. Dans ces conditions, le travail des maraîchers tourne au cauchemar, comme a pu le constater Marine Chailloux à Rogny-sur-Seine.
Des tomates qui cuisent littéralement sur pied, qui durcissent et restent jaunes, voilà les symptômes de la sécheresse.
Sarah Lecoq, troisième génération de maraîchers, vient de perdre une bonne partie de sa récolte.
20-30%, ouais, par exemple, sur les maïs, sont moins hauts, les épis sont plus courts. On a eu des 60 degrés dans la serre, les végétaux, ils n'ont rien compris à ce qui se passait. Plusieurs jours d'affilée, les fleurs, elles ont coulé, tout a cramé là-dedans. Et en fait, la chaleur induit aussi une montée à graines. Les navets, tout ce qui était salade, tout ça, c'est monté à graines en une semaine à cause des fortes chaleurs.
Il faut dire que le département a été touché par une sécheresse durable. Un comité départemental de ressources en eau se réunit régulièrement pour mesurer son impact. Et la situation est pire en septembre qu'en août. Sur 28 points de contrôle sur les cours d'eau, 21 ont dépassé le seuil d'alerte. Vincent Roberti, secrétaire général de la préfecture des Yvelines.
On a très peu de précipitations, voire pas du tout de précipitations. Ça veut dire que la ressource en eau va continuer à se réduire. Et donc, pour éviter qu'elle soit mise en danger, il faut qu'on agisse en restreignant les usages.
Alors Sarah adopte de nouvelles pratiques pour économiser l'eau.
Tout ce qui est paillage, tout ce qui est économie d'eau, là, cet été on comptait les gouttes. Dès qu'il a eu, il y a eu quelques orages, on a mis des cuves partout, sous les moindres gouttières, on a fermé les circuits, on irriguait en circuit fermé. Comme ça, au moins, il n'y avait pas de perte.
Car on arrose trop, dit-elle, il faut changer nos techniques et peut-être aussi nos calendriers de production.
Et nouvel exemple de cette météo exceptionnelle, il n'avait jamais fait aussi chaud pour un mois de septembre à Nîmes. 36,6 degrés hier, record de chaleur battu également à Susland, toujours dans le Gard, 35,9 degrés, à Digne-les-Bains et Gap, 33 degrés, et à Villefort en Lozère, 32,9 degrés. Une entrée en matière difficile en Ligue des Champions pour Lille, dominée 3-0 à Amsterdam, et qui a vu 300 de ses supporters interpellés pour des incidents dans le métro. Lyon, de son côté, a fait match nul un partout face au Zénith Saint-Pétersbourg, et puis entrée en Ligue ce soir du PSG qui reçoit le Real Madrid, une équipe parisienne diminuée, privée de Neymar, Cavani et Mbappé. Série culte dans les années 80, Palace est pour la première fois sur scène dans une version cabaret au Théâtre de Paris. Jean-Michel Ribe toujours à la barre, et si les comédiens ont changé, si les tons ont changé, l'esprit Palace reste le même. Stéphane Capron a assisté aux dernières répétitions.
Appelez-moi le directeur !
Les personnages mythiques de ce Palace sont de retour plus de 30 ans après. Aux grandes vedettes de l'époque, Jean Carmé, Jacqueline Maillan, Claude Pieplu ou Darry Cole, succède une nouvelle troupe de 20 comédiens et danseurs. Le décor, lui, n'a presque pas bougé. Le grand escalier du Palace descend dans la salle du restaurant et l'humour de Jean-Michel Ribe est toujours le même.
J'ai voulu que Palace, qui quand même bouscule un peu la richesse, les pauvres et tout ça, qui n'a pas vraiment changé depuis sa création, soit là. J'ai voulu que ce soit une troupe de comédiens neufs pour faire une image d'aujourd'hui. La même cathédrale d'irrévérence, mais restaurée avec des matériaux d'aujourd'hui.
Jean-Marie Gouriot a réécrit 30% des textes pour ancrer ce palace dans notre époque.
Les migrants, on peut difficilement ne pas les voir depuis la fenêtre du palace. Tous ces gens qui veulent absolument venir à la nage et qui se noient, évidemment, est obligé d'en parler un peu sans en faire une pièce militante ni quoi que ce soit. Mais ça aurait été un peu ordurier de notre part de ne pas parler de cette facette noire de l'argent.
Jean-Michel Ribe et Jean-Marie Gouriot réalisent ainsi leur rêve de transposer Palace du petit écran à la scène, un retour aux sources pour vérifier que l'humour absurde est indémodable.
Et la première de Palace, c'est donc ce soir au Théâtre de Paris.
Merci Agnès Soubiran.